Nouvelle hebdo, émission spéciale depuis le Sheraton de Montréal. Nous sommes le mardi 4 décembre. Au sommaire, l'intelligence artificielle entre espoir et crainte. Comment prévenir les risques associés à cette grande innovation, cadrer son utilisation? C'est à cela que va répondre le nouvel observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Il vient d'être dévoilé officiellement à Montréal. Nous recevrons sa directrice, tout nouvellement nommée, donc Lise Langlois. Et avec elle, nos invités exceptionnels. Nous allons tenter de répondre aux préoccupations éthiques et sociales qui sont posées par l'intelligence artificielle. 60 minutes pour mieux comprendre ce qui nous attend en la matière. Émission spéciale au micro Philippe Regnoux, c'est l'hebdo, c'est maintenant. Émission spéciale enregistrée depuis le Sheraton de Montréal que j'ai le plaisir d'animer avec Audrey Azoulay à l'occasion d'une semaine exceptionnelle consacrée à l'intelligence artificielle. Salut Audrey.
Bonjour Philippe.
Alors beaucoup d'événements organisés jusqu'à vendredi, plus de 8000 délégués du monde entier présents à Montréal avec des ateliers, des présentations scientifiques, mais aussi deux annonces majeures, historiques, osons le mot, puisque ce 4 décembre 2018 va être lancé à Montréal la Déclaration mondiale pour une intelligence artificielle responsable. C'est une initiative de l'Université de Montréal et c'est le fruit de plus d'un an de consultation. On y reviendra dans cette émission. Et ce lundi, eh bien, autre annonce majeure, la création d'un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, Audrey.
Effectivement, Philippe, alors comme son nom l'indique, cet organisme va concentrer sa mission sur l'observatoire des grandes transformations sociétales, transformations qui s'installent et qui invitent à accélérer la convergence des parties prenantes pour une construction responsable, durable de tous les systèmes de l'intelligence artificielle. Alors cette convergence est précisément au cœur de la mission de l'Observatoire. Son action se concentrera sur la mobilisation des forces vives, de la recherche, la rencontre des disciplines, la qualité des politiques publiques. On cherche ici à renforcer le leadership du Québec dans une course déjà amorcée pour la définition des normes et des grandes lignes d'une gouvernance qui devra nécessairement être mondiale. D'ailleurs, l'Observatoire devrait participer à la création à Montréal d'ici à 2023 de l'Organisation mondiale de l'intelligence artificielle.
Alors, dans un peu moins d'une trentaine de minutes maintenant, nous recevrons celle qui en assure depuis ce lundi à Montréal, la direction Lise Langlois. Je vous rappelle que nous enregistrons cette émission spéciale de C'est l'hebdo à l'invitation des fonds de recherche et du scientifique en chef du Québec en plein cœur du forum de réflexion qui se tenait ce lundi à Montréal autour des enjeux sociétaux que pose l'intelligence artificielle. Et pour introduire la première discussion qui va porter sur les réponses des politiques publiques aux enjeux posés par l'intelligence artificielle, Audrey, un rapide tour d'horizon.
Effectivement, alors les gouvernements se trouvent en effet devant un chantier politique gigantesque. Le Canada a été le premier pays à ouvrir le bal en 2017 avec la stratégie pan-canadienne. Depuis, les politiques cadres sont annoncées en rafale à peu près partout dans le monde et partout avec l'ambition d'occuper les premières places. Parce que si la coopération internationale apparaît comme un des avantages cruciaux, on sent bien que c'est maintenant que se distribuent les cartes. Alors, de la comparaison panoramique qu'on a pu faire des politiques publiques, il semble que partout on ait compris qu'une approche durable est nécessaire pour une compétitivité qui soit viable. D'un côté, on cherche à capter toutes les opportunités en matière d'avancée scientifique, de leadership économique également. De l'autre, on répond aux défis d'une transition risquée, notamment en termes d'inégalité sociale ou de liberté civile. Alors en général, les grandes questions se croisent, l'attraction des talents et des investissements, l'intégration technologique, l'éthique, les infrastructures.
C'est assez nombreux les enjeux. Ouais.
Absolument. Puis, mais il y a aussi la portée de la recherche. C'est beaucoup ce qui est discuté aujourd'hui, et surtout l'inclusion par l'éducation.
Et pour en parler, eh bien, Audrey, on accueille Michel Servoz.
Michel Servoz, conseiller spécial sur la robotique et l'intelligence artificielle au sein de la Commission européenne.
Michel Servoz, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, avant de commencer, une question simple. Est-ce que vous avez le sentiment, comme nous, d'assister à un événement historique cette semaine à Montréal?
Je pense que oui. Je crois que ce qui a été dit sur l'Observatoire et sur la Déclaration, c'est franchement une étape majeure. C'est une étape majeure et je dois dire que l'Europe n'est pas nécessairement aussi avancée que le Canada sur ce point. Et donc on va regarder avec beaucoup d'attention ce qui va se passer maintenant. On est très intéressé de savoir quel va être le résultat de l'observatoire. Parce qu'en effet, je crois que l'approche du Canada est un peu aussi l'approche européenne, c'est-à-dire qu'il faut se battre pour la compétitivité, pour être les premiers en matière d'innovation. L'intelligence artificielle, c'est clairement une des nouvelles frontières. Mais il faut regarder le côté social, il faut regarder l'impact sur la société.
Les conséquences.
Et donc
ouais.
L'idée d'avancer en même temps, ça nous paraît le plus important. Et c'est ce que fait le Canada et on applaudit.
Alors face à cette révolution technologique, les pouvoirs publics ne peuvent évidemment rester les bras croisés. C'est ce qu'indiquait très clairement Audrey. On ne peut pas rester spectateur, il faut agir pour optimiser les bénéfices tirés de l'intelligence artificielle. Ils sont nombreux, notamment en transport, en santé, on le verra un peu plus tard, mais aussi pour minimiser les risques, les coûts pour la société. Quels sont aujourd'hui les principaux leviers qu'ont les gouvernements pour agir en la matière?
Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le changement est partout. Parce qu'en réalité, j'imagine que vous faites comme moi vos transactions bancaires en ligne. Si vous allez à votre guichet dans votre banque habituelle, vous verrez que la personne qui, avec laquelle vous travaillez avant a changé complètement d'emploi.
Totalement.
Et donc ça, c'est un changement majeur qui se fait en silence et qui se fait grâce aux efforts de formation qui sont faits par les entreprises. Et donc la responsabilité principale des gouvernements, des autorités, c'est d'accompagner ces changements, c'est d'accompagner ces transitions. On n'est plus dans un monde où mes parents avaient un job pour leur vie. Je crois que ça aurait un employeur pour leur vie. Dans ma génération, ça a commencé à changer beaucoup. Maintenant, ce que je vois avec mes enfants, c'est que non seulement ils auront plusieurs carrières dans leur vie, mais parfois ils ont plusieurs jobs en même temps.
C'est ça.
Donc c'est une situation qui est complètement différente et qu'il faut gérer. Et là, c'est vraiment la responsabilité des autorités publiques de travailler notamment dans le domaine de l'éducation. Parce qu'à mon avis, la première priorité, ça doit être celle de l'éducation pour les jeunes, mais aussi beaucoup pour les adultes.
Alors, vous l'avez dit, hein, Monsieur Servoz, un véritable chantier qui s'ouvre, des transitions pas nécessairement faciles. Hein. Le politique est très actif, très ambitieux même. Mais les institutions maintenant, hein, considérant les rigidités qu'on peut leur prêter, sont-elles assez robustes, sont-elles assez prêtes pour agir au même rythme hein, que les technologies ou peut-être sont-elles finalement à risque hein, pour d'être dépassées par la situation?
Je me demande si la question ne contient pas la réponse en même temps. Non, la réponse est non, pas tout à fait. Et je crois que ça, c'est un énorme défi à gérer maintenant, notamment pour les systèmes éducatifs. C'est d'arriver, par exemple, au niveau universitaire, à avoir des programmes qui suivent l'évolution de l'intelligence artificielle, de la robotisation. C'est extrêmement compliqué. On m'a expliqué que mettre en place un programme universitaire, ça prend plusieurs années. Le faire en partenariat avec les entreprises, c'est aussi assez compliqué. Sans parler des aspects financiers, des aspects d'investissement. Donc ça, ce sont les enjeux. Et à mon avis, le système éducatif doit devenir beaucoup plus fluide. Je dois dire, pour les conversations, basées sur les conversations que j'ai eues avec des universitaires, des professeurs, la réalisation est en train de se faire et c'est en train de se passer.
Les défis, Michel Servoz, on le voit, ils sont transversaux. Ça touche l'économie, l'éducation, vous l'avez dit, la santé, le transport, l'emploi, la défense, j'en passe. Est-ce qu'il ne faudrait pas un ministère de l'intelligence artificielle dans chaque pays?
Pour moi, non. Parce que chaque ministre doit être ministre de l'intelligence artificielle. C'est à chaque ministre, à chaque parlementaire aussi, d'avoir
conscience. Qui choisit la responsabilité.
Ben voilà, ouais. Exactement.
Vous le mentionniez tout à l'heure, hein, vous êtes assez impressionné par le leadership canadien, mais en Europe, l'écosystème est potentiellement plus complexe, avec des pays membres hein, très, très divers. Est-ce que vous pourriez peut-être, c'est aussi peut-être une des forces hein, d'ailleurs de l'Europe, pourquoi pas, est-ce que vous pourriez nous parler là, des opportunités de coopération et de partenariat avec les pays européens et peut-être nous dire comment le Canada pourrait en profiter?
Bon, moi, je crois qu'il y a un grand enjeu. Pour l'intelligence artificielle, c'est la coopération internationale. Parce que quand on regarde ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Chine, au Japon, en Europe, on voit des approches très très différentes. C'est des approches très différentes, mais qui en réalité concernent la même population. Parce que quand des entreprises chinoises fabriquent des smartphones avec des logiciels de reconnaissance visuelle, ça concerne tous leurs consommateurs, qu'ils soient en Amérique du Nord, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient en Chine. Et donc je crois qu'il sera absolument indispensable d'avoir une vraie coopération internationale en matière d'intelligence artificielle. Juste un autre exemple, la législation sur la protection des données. En Europe, on est très fiers d'avoir cette législation qui est très protectrice des citoyens. Pour autant, elle a un impact partout, en Californie, en Amérique du Nord, y compris en Asie. Donc je crois qu'il va falloir très rapidement qu'on engage des discussions. L'idée d'une organisation mondiale, je pense que c'est très intéressant, mais je crois qu'il faut commencer par une coalition de ceux qui ont la même approche sur ces questions. Et il me semble que Canada, Europe sont très proches l'un de l'autre.
Ont des accointances naturelles, ouais, on va
tout
dire.
À fait.
Mais tous les pays aujourd'hui mesurent le défi et le potentiel que représente l'intelligence artificielle. On voit que les puissances investissent tous des milliards finalement pour être finalement le leader dans certains secteurs déterminés. Comment on fait pour avoir, parce que vous parlez de réponse internationale, on l'entend bien, comment on fait pour unir finalement tous ces intérêts, on va dire, particuliers, alors que finalement ça reste une volonté de puissance affirmée et une volonté de surpasser l'autre?
En effet, mais c'est une course pour être le premier. En même temps, il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut arriver à se mettre d'accord. J'ai cité l'exemple de la protection des données.
Oui.
C'est pas possible d'avoir à très long terme des standards qui soient complètement différents, complètement opposés dans une partie du monde et dans l'autre. Donc à un moment ou un autre, il faudra une certaine harmonisation. Donc il y a une course, mais il y a une nécessité de coopération qui est absolument vitale.
Et vous pensez que les États sont prêts à faire cette démarche ?
Pas encore.
Alors peut-être une dernière question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, le secteur de l'éducation et de la formation, c'est probablement une des plus grandes préoccupations honnêtement, parce que ça peut mener à certaines inégalités et des gens un petit peu laissés sur le côté. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à faire cette transition là au niveau de l'éducation, de la main d'œuvre de manière générale?
Pour moi c'est une grosse question qui concerne notamment l'investissement dans le système éducatif. Juste pour donner un chiffre, en Europe, on a 70 millions d'Européens qui n'ont pas les connaissances fondamentales en matière de littératie, de numératie. Donc cette population-là, elle est complètement en dehors de la transition digitale. Et donc pour eux, si on veut les aider à trouver un emploi, à rester employés, il faut absolument construire un système d'éducation des adultes qui fonctionne. Ça n'est pas le cas, et c'est là où je pense qu'il faut faire une priorité d'investissement.
Oui, parce que souvent on parle d'investissement dans les fameux STEM.
Exactement.
Donc pour les enfants et puis pour les étudiants. Mais vous pointez du doigt la formation pour adultes, elle
oui.
est essentielle, c'est ça
non,
que vous dites?
Non, absolument. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non seulement investir dans des laboratoires de recherche, dans des grandes entreprises, il faut investir dans le capital humain et notamment dans ceux qui risquent d'être exclus. C'est absolument vital pour l'avenir.
Je reviens sur l'Europe, parce que des voix s'élèvent, notamment en France, pour dire c'est la dernière chance de construire une Europe industrielle de l'intelligence artificielle. Face aux velléités de la Chine, on l'a dit, des États-Unis qui sont leaders, face aux conglomérats industriels et aux géants, les GAFAMI, les BHITX maintenant qui sont arrivés, est-ce que c'est un propos alarmiste selon vous? Est-ce qu'on a raison de s'en inquiéter?
Je ne crois pas que c'est alarmiste, c'est une opportunité à saisir. Parce que ce que veut dire l'intelligence artificielle, la robotisation, la transformation digitale, ce sont des emplois qui retournent en Europe. Pendant des décennies en Europe, notre industrie a perdu des emplois dans le textile, dans l'automobile, dans la pharmaceutique, qui sont partis dans des pays où le travail coûte pas cher. Maintenant, grâce à la robotisation, on voit ces emplois revenir vers l'Europe. Et donc je crois que ça, c'est une opportunité à saisir et on doit tout faire pour en effet ancrer ces emplois en Europe.
Donc en gros, vous dites qu'il faut changer le paradigme.
Il faut changer le paradigme, en effet.
Merci Michel Servoz. Je rappelle, vous
Merci
êtes vous. Conseiller principal du président de la Commission européenne pour toutes les questions liées à l'intelligence artificielle. Merci d'avoir répondu à ce premier panel de discussion. Dans quelques instants, nouveau plateau, nouveaux invités. On va parler plus précisément des impacts de l'intelligence artificielle en santé. Vous allez voir, ils sont nombreux. C'est l'Hebdo, émission spéciale. À tout de suite.
Québec.
Émission spéciale, on le rappelle, à l'occasion de cette semaine exceptionnelle à Montréal, consacrée à l'intelligence artificielle responsable. Audrey, est-ce que ça va bien?
C'est
de
très
ton côté,
bien.
Voilà, on est sous la chaleur, effectivement, des éclairages. Et puis, le monde, effectivement, est là. Donc, on en est ravis. Nous sommes ici à l'hôtel Sheraton, en plein cœur du forum « Faire face à l'intelligence artificielle » organisé par les Fonds de recherche du Québec et le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Rémi Quirion, qui, on l'espère, compte tenu de son agenda chargé, va être avec nous en fin d'émission pour parler, justement, de cette annonce, le nouvel observatoire qui a été donc dévoilé ce lundi. On va parler tout de suite d'intelligence artificielle en santé et on va accueillir donc nos deux invités pour parler de ce sujet. Je vais commencer par François Laviolette, vous êtes titulaire du Centre de recherche en données massives de l'Université Laval. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour François. Et puis face à vous, Alexandre Leboutillier, cofondateur d'Imagia, une firme d'intelligence artificielle dédiée à la lutte contre le cancer. Bonjour Alexandre.
Bonjour, c'est un bon début.
C'est un bon début, on commence bien. Pour démarrer la discussion sur les impacts de l'intelligence artificielle en santé, notre journaliste Émilie Aubry, salut Émilie.
Bonjour.
Est allée recueillir un témoignage particulier.
Certainement, parce qu'on le sait et on le constate aujourd'hui aussi, Montréal est particulièrement bien positionné en termes d'expertise sur la scène de l'intelligence artificielle au plan international. C'est ce qui nous mène aujourd'hui à procéder à une transformation des professions dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé. Pour ce faire, on doit revoir les cursus scolaires pour sortir du cadre usuel des écoles de médecine et modifier les processus qui sont déjà en place. Cette adaptation sera nécessaire autant pour les professionnels de la relève que pour les spécialistes en exercice actuellement. L'Académie du CHUM répondra à ce besoin d'adaptation, mais en quoi sortira-t-elle du cadre traditionnel? J'ai posé la question à Nathalie Beaulieu, directrice de l'enseignement de l'établissement. On l'écoute.
On va mettre l'emphase plus sur l'humain, sur ce qu'il y a de meilleur à offrir, soit ses qualités d'écoute, d'empathie, d'esprit critique, de créativité. Les patients, on le voit déjà, ils arrivent en cabinet avec des objets connectés. Déjà, on voit que le système est en train de changer, que ce soit dans la capacité à prédire la santé. Je pense qu'une des clés, ça sera comme société de faire des choix éclairés, peut-être moins d'hôpitaux comme actuellement et plus de médecine personnalisée à domicile, de santé, de bien-être à la maison. Là.
Alexandre Leboutillier, François Laviolette, on l'a entendu dans le reportage de notre journaliste Noé Kébili, cette école spécialisée, l'Académie du CHUM en intelligence artificielle, elle se donne pour mandat d'établir des barèmes éthiques, de générer de nouvelles connaissances par la mobilisation à la fois du personnel médical, des penseurs, des intellectuels, des juristes, les patients eux-mêmes. Est-ce pour vous la meilleure manière d'établir un consensus autour d'un code éthique à suivre dans le domaine de la santé? Peut-être, François, je vous donnerai la parole.
Je pense que ça fait partie des initiatives importantes. Je pense aussi que la création de l'observatoire qu'on a vu ce matin, c'est aussi un élément de réponse important dans le sens que il faut qu'on soit capable de trouver des façons de réfléchir à comment bien faire la chose. On a des idées en ce moment sur qu'est-ce qui est un mauvais usage des intelligences artificielles. On a des idées aussi sur les bons coups qu'on est capable de faire avec les intelligences artificielles, mais de bien comprendre comment intégrer tout ça de façon à ce que la société en sorte gagnante, qu'on fasse aussi mettre des balises pour empêcher des potentialités de dérive. Ça, c'est tout un travail qui est à faire, qu'on est en réflexion là-dedans.
Mais là, de mobiliser justement tout le monde, de casser les silos, est-ce que pour vous, c'est ça la méthode? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je pense que si on veut vraiment que l'intelligence artificielle prenne son envol et puisse être vraiment avoir un impact en santé ou dans n'importe quelle autre sphère de la société,
il faut que tout le monde soit impliqué.
Il faut que les données se parlent, en fait.
C'est ça. Et sous-entendu, elles ne se parlent pas suffisamment. C'est ça que j'entends.
Exactement.
Est-ce que vous êtes d'accord, Alexandre?
Tout à fait. Je dirais que tout passe par une combinaison d'expertise et on a la chance cette semaine d'avoir trois événements exceptionnels. Donc hier, le début de NURIPS, qui est une importante conférence en intelligence
artificielle. Plus de 8000 personnes attendues. Hein.
8000 personnes.
On parle même de 10000.
Non, 8000, c'est la capacité maximum du Palais des congrès. Donc la plus grande conférence d'intelligence artificielle au monde se tient à Montréal. Hier, on avait une exposition extraordinaire sur plusieurs applications, dont la santé. Aujourd'hui, on a l'Observatoire, donc je pense qu'on se positionne au Canada d'un point de vue international comme créant des liens avec d'autres populations. mais surtout en mettant l'accent sur le patient et le médecin. Le médecin est à la base des découvertes, donc il faut être capable de lui donner non seulement des produits finis, mais des outils qui vont lui permettre de découvrir lui-même des produits qui vont être utiles au patient. Donc, je pense que ce dialogue-là entre le patient, le médecin, l'hôpital, les entreprises et tout l'écosystème qui gravite, pas seulement l'écosystème canadien, mais l'écosystème international. La majorité des grands fabricants de médicaments, de technologies médicales
donc les privés, hein, c'est ça,
sont étrangers. Mais on peut leur apporter l'intelligence artificielle qui vont bénéficier aux Canadiens, mais aussi qui vont rapporter des revenus de licence pour le Canada.
Donc, tout le monde doit discuter. C'est participer à la discussion. C'est ça que j'entends, hein, de votre message.
Oui, en gros, c'est ça. Il y a aussi l'idée qu'il va falloir aussi qu'on accepte de travailler très transdisciplinaire, d'avoir non seulement accès à ces données-là, mais changer les façons de faire. Puis ça implique et à la fois des adaptations de la part, par exemple, des gens en sciences de la santé, mais également des découvertes de notre côté à nous, les gens en intelligence artificielle. Comme par exemple, dans le cas de la santé, la non-interprétabilité de plusieurs intelligences artificielles peut poser problème. Lorsqu'il y a un diagnostic qui est posé, ça serait intéressant que le médecin soit capable de infirmer ou confirmer que la décision était bonne. Donc, ça prend une certaine forme d'explicabilité. Ça prend aussi...
De pédagogie, d'une certaine manière aussi.
Si tu veux. Mais pour l'instant, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile.
C'est dans l'air du temps.
Dans le cas des images, c'est pas si mal parce que, par exemple, avec Imagia, ils ont donc une capacité de reconnaître les cellules cancéreuses. Mais là, on fait tout simplement pointer l'endroit et le radiologue peut regarder et valider par lui-même si, effectivement, une cellule avait échappé à son diagnostic.
Exactement.
Comme ça.
On va y revenir sur Imagia. On va revenir. Audrey.
Alors, l'intelligence artificielle, on a commencé à citer quelques exemples très intéressants. C'est installé dans le domaine de la santé de manière assez spectaculaire, en fait. On a parlé du domaine de l'imagerie médicale, qui a toujours été, en fait, fascinant, mais il va rester fascinant. Ça s'annonce comme ça, en tout cas. En cancérologie, hein, les avancées sont hyper prometteuses. Il y a aussi la médecine à distance. Et on commence à entendre parler aussi des robots sociaux et affectifs, là, qui arrivent dans la pratique médicale.
Donc, fini les chiens. C'est ça l'idée.
Je sais pas, j'espère pas. Alors donc il s'agit pas simplement de mieux outiller le médecin, et il y a aussi des changements très clairs, hein, du rapport au patient. Alors la question du rapport humain, justement, vous en avez un petit peu parlé, monsieur Laviolette, mais rentrons un petit peu plus dans les détails, parce que ce rapport humain reste important, hein, dans la guérison. Qu'est-ce qui est prévu pour qu'il ne soit pas à risque?
Ben là, c'est un peu à nous de décider, là. Mais moi, je
quand
pense...
Quand vous dites « nous », c'est qui?
La société. Bonsoir. D'accord. Collectivement, on va décider comment on veut que les soins se font. Moi, je suis partisan, par exemple, que pour la plupart des décisions critiques, donc qui mettent la vie des individus en danger, moi, je suis partisan pour que, pour l'instant, en tout cas, on garde l'humain dans la boucle. Que ce soit nécessairement, grosso modo, il y ait un apport qui soit donné par une intelligence artificielle, mais je voudrais pas qu'on s'en éloigne de l'humain complètement. À certaines exceptions près. Par exemple, il y a des problèmes de différentes maladies en Afrique. On veut envoyer des scanners en Afrique, mais on n'a pas les moyens d'envoyer des radiologues en Afrique. Donc, dans cette situation-là, on a le choix entre pas d'humain du tout ou des machines.
C'est ça.
OK. Mais ça, c'est vraiment le cas de type d'exception. Sinon, moi, je suis vraiment partisan que l'humain reste dans la boucle.
Au cœur de la démarche.
Il sera plus performant, il sera plus capable de faire des bonnes décisions grâce à l'IA. Il va pouvoir probablement travailler plus rapidement aussi, dans le sens que toute la partie fastidieuse de l'analyse va lui être facilitée. Mais en quelque part, je pense que l'humain reste important.
On dit, Alexandre, que les principaux bénéfices entrevus pour l'intelligence artificielle en santé, c'est la collecte des données, c'est la médecine qui va être plus personnalisée, plus prédictive. Vous, chez Imagia, vous le disiez, François, c'est mieux prévenir le cancer en réunissant, en collectant, en disséquant, en analysant toutes les données en fait antérieures passées, des traitements passés, pardon, du patient, pour les fournir finalement aux radiologues, pour qu'ils émettent un meilleur diagnostic. Est-ce qu'avec ce type de démarche, on est proche des diagnostics qui vont être avec un taux d'erreur qui va être proche de zéro? Est-ce qu'on est avec des diagnostics quasi parfaits dans ce type de démarche ou pas?
Santé, on est plus dans des niveaux de gris que des réponses blanc ou noir. Ouais. Donc souvent dans les bases d'entraînement, il y a intrinsèquement des erreurs. Donc, l'humain fait des erreurs, la machine va aussi faire des erreurs. Ce qui est important, c'est en combinant les deux, on va réduire justement les délais, on va réduire les coûts. Donc ça, c'est les choses qu'on peut faire facilement dans le système de la santé. On fait un petit peu depuis 1998 avec des systèmes de détection plus précoces du cancer du sein. Ce qui arrive maintenant avec ces nouvelles technologies de deep learning sont extrêmement plus performantes et vont vraiment améliorer la détection. Où on s'en va, c'est vraiment sur l'aspect prédictif. Donc, souvent, on a un cancer, mais le temps qu'on diagnostique exactement le type de cancer, bien, ça peut prendre un peu de temps. Et surtout, le temps de choisir le bon traitement en fonction de ces mutations génétiques, bien, ça encore, c'est un temps qui s'ajoute. Donc, on est vraiment dans une course contre la montre où l'intelligence artificielle, en fait, peut compresser ce temps-là et déclencher les bons traitements plus rapidement.
Alors, on va améliorer, c'est ce qu'on comprend, les diagnostics de santé, même si effectivement l'erreur n'est pas impossible, n'est pas évacuable totalement, on l'a bien compris. Mais si un algorithme se trompe, puis là, je me tourne vers vous deux, hein, les amis, si un algorithme se trompe, qui est responsable? Quelle est aujourd'hui la responsabilité du système de santé par rapport à ces démarches?
Alors, ça dépend toujours des prétentions du fabricant du logiciel. Si le logiciel et sa déclaration dit que le logiciel est responsable de ses erreurs, bien, évidemment, le logiciel est responsable de ses erreurs et son fabricant. Donc, selon l'approbation qui est donnée de l'agence réglementaire...
Donc, c'est contractuel, hein, c'est ça?
C'est très contractuel. Il y a même des fabricants automobiles qui vont prendre ces responsabilités-là. Et il y a d'autres outils informatiques utilisés en santé où là, l'expertise humaine est requise pour interpréter ces données-là.
Mais on n'empêchera pas la conscience du professionnel de santé par rapport à ça. On imagine bien dans des situations pareilles que même si c'est contractuel, il va y avoir de l'émotion derrière ça, non?
Bien, moi, je pense qu'à partir du moment qu'on garde l'humain dans la boucle, on est capable justement de continuer à fonctionner avec un système qui... Puis il faut voir qu'est-ce que veut dire la responsabilité. Si l'intelligence artificielle n'a pas fait défaut, a suivi ses spécifications, il y aura toujours des erreurs de diagnostic. On espère les rendre au minimum grâce à l'IA, mais ça ne changera pas ça.
Je donne un exemple très particulier. Si on a une technologie qui diagnostique à 80% de fiabilité une pathologie sans intelligence artificielle et qu'on passe à 95% avec l'intelligence artificielle, en combinant l'humain et l'intelligence artificielle, ben oui, on a quand même encore 5 % d'erreurs. Mais si c'est bien compris par le praticien, les limites de cette technologie-là et qu'elle est expliquée. Donc, ce qui est intéressant de l'intelligence artificielle...
Tout le besoin de former les praticiens, hein,
à comprendre les boîtes d'opération de ces technologies-là. Mmh. Et souvent, la technologie, justement, elle ne va pas donner nécessairement une réponse blanc ou noir. Elle va dire, à 95 % il s'agit de telle chose.
Vous parlez de médecine prédictive et vous donnez des exemples très intéressants. Ça semble être prometteur pour augmenter l'efficacité du système de santé. On a tendance à beaucoup parler des prouesses technologiques, mais justement, il y a une autre réalité qui subsiste, c'est la difficulté croissante du financement de la santé. Alors, je vais vous poser une question d'économiste. Est-ce que l'intelligence artificielle va aussi être salvatrice au niveau du financement et puis peut-être laisser de la place pour un accès plus universel à des meilleurs soins?
Alors, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il ne faut pas oublier que c'est du logiciel. Donc, le logiciel, souvent, il est instantané. Il est accessible d'un point de vue géographique. Et évidemment, il est beaucoup moins cher. Donc, on va être capable de rendre des technologies qui étaient auparavant très coûteuses, très longues et très invasives, souvent, avec même de la comorbidité, beaucoup plus accessibles. Donc, le terme accessibilité est très important, je pense.
Oui, puis on a toute cette idée de la médecine de précision qui est en émergence, pour laquelle l'intelligence artificielle va être un outil déterminant qui permet de choisir le bon traitement à la bonne personne au bon moment. Et donc, de pouvoir avoir cette capacité-là d'intervenir de la bonne façon, ça va effectivement avoir un impact sur les coûts de la santé.
Merci François Laviolette. Je rappelle, vous êtes titulaire du Centre de recherche en données massives de l'Université Laval. Et merci à Alexandre Leboutillier, cofondateur d'Imagia, une firme d'intelligence artificielle qui lutte contre le cancer. Merci d'avoir répondu à ce deuxième panel de discussion, messieurs.
Merci.
Bonne santé pour 2019.
Merci. Dans quelques instants, nouveau plateau, nouveaux invités. Et voilà, on lance les vœux de nouvelle année. On va parler plus précisément dans ce troisième sujet des enjeux éthiques posés par l'intelligence artificielle. Mais avant cela, c'est l'heure de notre quête hebdomadaire à la poursuite du Saint Graal. Le job parfait en sciences, recherche et innovation, c'est le billet d'Émilie, la tête chercheuse.
Je cherche, je cherche. La si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
Alors, en cette semaine spéciale sur l'intelligence artificielle à Montréal, j'ai décidé de me renseigner sur l'avenir du marché de l'emploi en général. Car l'intelligence artificielle, ça inquiète nos auditeurs.
Ah bah oui, ça les inquiète, on l'a vu sur le Facebook.
Oui,
hein.
Absolument, beaucoup de réactions. Alors, à votre avis, quels emplois vont disparaître?
Alors, quels emplois vont disparaître?
Oui, à cause de l'intelligence artificielle.
Il y en a beaucoup, visiblement, qui sont menacés. Hein. J'ai pas l'idée. Des emplois qui disparaissent, tiens, Audrey.
À cause de l'intelligence artificielle.
Les comptables, les avocats.
Ah oui, bon, ben bah, merci, tu vrai. As volé le punch de ma chronique. Donc il est clair
très
qu'on
en forme, hein,
oui
Audrey,
oui
ce
oui
soir.
Toujours. Il est clair qu'on s'en va vers une robotisation, une automatisation des services, mais jusqu'à quel point? Par exemple, les emplois reliés donc aux services à la clientèle sont voués à disparaître. Ça on le sait, on le voit déjà dans les caisses des supermarchés avec les caisses automatiques. Je sais pas pour vous, mais moi je fuis les caisses automatiques comme la peste. J'aime ça échanger avec
le
des
commis.
Humains.
Voilà.
Non mais tu sais avec des humains quand je fais mes courses, ça reste les meilleures personnes pour me rappeler par exemple qu'il y a 5$ de rabais sur le lot de rouleaux de papier toilette. D'ailleurs, merci Ginette pour ce conseil. J'ai grâce à toi investi dans du papier triple épaisseur cette semaine, car il faut se l'avouer,
c'est
le
utile.
Papier toilette bas de gamme, trop fin, c'est risqué.
Jamais un robot ne dira ça.
Mais tant pis pour mes interactions sociales, la tendance est tout autre. On se souvient par exemple du premier magasin totalement sans caisse ouvert à Seattle par Amazon. La Chine a d'ailleurs emboîté le pas récemment avec l'ouverture de magasins par le géant Alibaba utilisant des reconnaissances faciales et différentes technologies RFID. Donc adieu Ginette, Mohamed, Richard, Marie-Josée, tous fidèles employés du IGA du coin de ma rue, bye.
Sans publicité évidemment.
Sans publicité, nous ne sommes pas sponsorisés par IGA. Parmi les métiers menacés auxquels je m'attendais le moins, il y a effectivement avocat, donc l'intelligence artificielle Case Cruncher Alpha, que tout le monde connaît,
oui.
Qui était à la base conçu pour, comme un chatbot censé répondre à des questions juridiques, s'est progressivement transformé en une intelligence artificielle qui a battu une équipe composée de 100 avocats du barreau londonien.
Wow.
Oui, mais ce n'est pas tout, et attention, selon vous, quel est le métier le plus improbable qui va être remplacé par une intelligence artificielle?
Alors là, autour de la table, moi je dirais comptable, mais c'est trop probable.
C'est trop probable,
ah,
non,
ouais,
c'est le métier de nez. Oui, c'est un métier né...
le parfum.
Exactement,
bah oui,
le parfum, exactement. Donc même le plus petit organe du corps utile à fabriquer des...
Va être remplacé. Adieu sommelier de ce monde.
IBM est en train de travailler effectivement sur une technologie en ce moment. Et donc, est-ce que c'est la fin de l'emploi tout bonnement? Eh bien non, rassurons-nous. Enfin, rassurons-nous, je ne suis pas personnellement...
Elle veut nous motiver hein, ce soir.
Non, mais je ne suis pas complètement opposée à l'idée d'arrêter de travailler personnellement. Mais il y a encore des gens qui prêchent pour l'emploi ici. Mais bon, alors, donc les gens veulent travailler, ne vous inquiétez pas. Il y en a plein des nouveaux emplois. Et quel est selon vous le métier qui va voir le jour grâce à l'intelligence artificielle, qui va être le plus nécessaire?
Il y en a tellement qu'on a en tête. Mais,
les artistes.
Les artistes? Intéressante réponse, mais non, le MIT a prédit que ce serait le métier de coach de robot. Car donc les robots vont avoir besoin de s'améliorer et puis ils vont devenir meilleurs en vieillissant parce que voilà, c'est ça l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un bon cheddar, c'est meilleur quand ça vieillit. Et donc voilà, pas de panique.
Et on conclut.
Ouais, pas de panique parce que au Québec, je dois dire, on s'en sort très bien, je dirais même qu'on est très en avance sur l'intelligence artificielle, on a même été plus loin jusqu'à créer l'intelligence superficielle. Car quand on voit le succès de l'émission de télé-réalité Occupation Double notamment, je me dis que de l'emploi, il y en aura toujours même pour ceux qui sont moins connectés.
Merci beaucoup. Merci
Émilie. J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Voilà, merci Émilie. Effectivement, émission spéciale, on le rappelle, à l'occasion de cette semaine exceptionnelle à Montréal, dédiée à l'intelligence artificielle responsable. Nous sommes ici à l'hôtel Sheraton, en plein cœur du forum consacré à cet événement majeur. Un forum organisé par les fonds de recherche et le scientifique en chef du Québec. Et aussi à l'occasion du dévoilement ce lundi du nouvel observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Justement, celle qui en a pris la direction, Lise Langlois, est avec nous sur le plateau de Célèbre d'eau pour aborder notre troisième sujet consacré aux enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Bonjour Lise.
Bonjour.
Et évidemment, félicitations.
Merci.
C'est un beau mandat.
Oui, Un mandat excitant, stimulant et avec une équipe du tonnerre.
On sent que vous avez une espèce de voilà, vous êtes dedans, vous avez une fébrilité totale.
Oui, bah, c'est bien, on va en
parler. On va en parler ensemble. Audrey.
Oui, parlons un petit peu, un petit tour d'horizon sur les enjeux éthiques, parce qu'en opérant un rapprochement sans précédent entre l'automate et l'homme, l'intelligence artificielle souffle sur de nombreux équilibres et soulève de grandes questions éthiques, des premiers scandales même, alors que le big data ne fait que s'installer. Alors les algorithmes automatisent les décisions, tentent d'influencer celles qui nous restent. Et si les scientifiques connaissent les limites du robot, eh bien du côté de la société civile, la confiance n'est pas encore gagnée. Parmi les enjeux, parlons de la transparence sur l'utilisation des données, la protection de la vie privée et des libertés individuelles, la robustesse des systèmes démocratiques. Il y a aussi la discrimination possible par des biais algorithmiques, pas toujours volontaires, mais qui peuvent mener à des erreurs et des injustices. Mentionnons la fameuse boîte noire des apprentissages profonds, qui ouvre la porte à toutes sortes de risques, notamment en cybersécurité. Enfin, il y a tous les risques d'exclusion et d'inégalité entre les individus ou même entre les pays. Alors, l'encadrement institutionnel et légal se trouve face à un grand défi. Et considérant la versatilité de l'intelligence artificielle, il va falloir être persévérant.
Alors, justement, ce nouvel observatoire international sur les impacts sociétaux, on le rappelle, de l'intelligence artificielle et du numérique, il a pour mission, Audrey vient de le dire et elle le rappelait tout à l'heure, d'assurer une veille permanente afin de soutenir la prise de décision des politiques publiques en la matière. On évoquait tout à l'heure avec Michel Servoz, qui était à votre place, Lise, les principaux enjeux auxquels font face aujourd'hui les gouvernements en matière d'intelligence artificielle, soutenir la recherche, former, attirer, retenir les talents, attirer les investisseurs, éviter un déséquilibre du marché de l'emploi avec la robotisation. Par quelle boule prendre ? Il y a tellement d'enjeux. Qu'est-ce qui est une priorité ? Est-ce qu'il y a une urgence là-dedans, selon vous ?
Oui, effectivement, on est entouré d'urgence.
Les défis sont vastes.
Les défis sont vastes, puis surtout, il y a une vitesse à laquelle l'avancement des connaissances dans ce domaine est exponentiel, comme on le dit. Et c'est pour ça que quand on a pensé à construire l'Observatoire, on a mis 8 thématiques. Parce que ces 8 thématiques, mine de rien, ont fait l'objet de discussions ardues. Parce qu'on se disait, et ça vous avez très, très bien résumé, face aux défis, quelles sont les thématiques les plus importantes? Alors, c'est pour ça que, dans un premier temps, quand on a réfléchi à l'Observatoire en termes de thématiques de recherche à poursuivre, du moins dans différents domaines, on a pensé à la santé durable, le bien-être des personnes, la santé animale. Donc, on en a fait un axe en soi.
Oui, on voit que la santé est un enjeu en soi.
Exactement. Alors, on a une multitude de chercheurs qui s'intéressent justement aux obstacles et aux défis dans ce domaine. On a, en même temps, vous avez fait allusion à l'emploi, à la modification de l'emploi, eh bien, on voit l'arrivée des nouveaux modèles d'affaires. Donc, toute l'industrie 4.0, le travail, l'emploi et l'entrepreneuriat, c'est devenu un deuxième axe d'importance. Par la suite, on a réfléchi en disant l'éducation est interpellée. Je ne sais pas si vous étiez présents ce matin, mais on avait des conversations. Quand on va développer des curriculums, est-ce qu'on doit penser à développer des curriculums dans le domaine de la programmation dès la maternelle? Alors, donc, on a fait un axe éducation.
Sensibiliser dès les premiers âges.
Exactement. Éducation, formation, citoyenneté, famille, communauté autochtone. Donc, on s'est dit que c'est important de montrer cet axe-là d'éducation. Ensuite, toute la question d'urbanisation 4.0, le géospatial, l'environnement.
Donc, la mobilité, l'environnement.
Exactement. Les objets connectés qui touche justement ces enjeux-là, les villes intelligentes, on le voit de plus en plus dans le monde, des municipalités qui réfléchissent à implanter la ville intelligente. Ensuite, on a vu aussi que la société, les arts, les médias, les communications, patrimoine culturel et la diversité culturelle étaient fortement touchés. Le statut d'auteur, par exemple.
Mais tous les secteurs vont être finalement, c'est ce qu'on comprend, touchés d'une certaine manière. Vous, votre rôle, l'Observatoire, ça va être de parler avec tous ces gens-là, de voir comment coordonner, de créer peut-être un parapluie global autour de ça pour essayer d'organiser, de réguler.
Eh bien, en fait, l'Observatoire, la façon dont on l'a pensé à partir de ces axes-là, évidemment, on a toutes les activités de recherche et création qui sont traversées par ces 8 thématiques-là. Mais on a aussi mis en place une deuxième fonction qui est la veille stratégique et veille scientifique. Donc, pour nous, c'est important de collecter tout ce qui se fait, mais en même temps, de diffuser ces éléments-là au public.
Puis, et aux décideurs.
Aux décideurs, surtout. Et là où ça joue, la troisième fonction qui est la délibération publique, ça va être de mettre en place des mécanismes pour soit travailler des projets de recherche avec la société, avec des groupes en particulier, mais en même temps de faire avancer un certain questionnement en termes d'acceptabilité sociale, parce que l'acceptabilité sociale est quand même...
C'est un enjeu.
Un enjeu qu'on n'a pas nommé ici.
Alors ça s'annonce passionnant, mais ça s'annonce quand même un peu essoufflant, hein, Lise. Alors,
Audrey est apeurée.
Alors parlons d'un enjeu très, très, très particulier maintenant, justement. Peut-être que ça va nous permettre d'illustrer là, comment va travailler l'Observatoire. Il y a ce qu'on appelle les discriminations qui sont contenues dans les biais algorithmiques. Hein. Alors, et on pense déjà à demander aux entreprises, aux organisations de produire des analyses d'impact sur ces discriminations, sur la protection des données. Mais ces algorithmes deviennent très rapidement de plus en plus opaques. L'intelligence artificielle alimente l'intelligence artificielle. Ça ressemble vraiment à une course en avant. Très franchement, est-ce que vous êtes optimiste sur notre capacité à dépasser cette course-là, justement?
Oui. La question que vous soulevez me fait, en tout cas, suscite en moi, quelle est la bonne utilisation? Hein? Parce qu'on ne réfléchit pas assez sur la bonne utilisation, par exemple, de la programmation. On est vraiment au début, je parlais avec des chercheurs en intelligence artificielle, et on dit c'est incroyable comment on a vu depuis 2-3 ans des articles apparaître sur l'éthique et l'intelligence artificielle. On voyait pas ça avant. On créait, par exemple, des algorithmes et on s'apercevait, par exemple, qu'il y avait justement des biais, des discriminations qui excluaient les femmes, les minorités visibles, etc. Et là, maintenant, on est beaucoup plus conscientisé dans la façon de concevoir nos algorithmes. Donc, on est dans des questions de bonne utilisation de cette recherche-là.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on pense l'algorithme en amont maintenant.
C'est exactement. Et c'est là que la réflexion éthique doit arriver, du moins justement en amont, pour réfléchir sur comment penser son utilisation, comment penser, par exemple, aux normes qui peuvent être interpellées, aux valeurs, aux lois, etc., qui sont floues, parce qu'on est dans une zone grise là présentement. Là, il y a quelques réglementations qui prennent forme, comme la réglementation sur la gestion de la protection des données en France. Mais il reste que quand même, on a un travail de réflexion au niveau des
l'application peut-être.
L'application des règlements, des normes et même des certifications là.
Observatoire international, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut penser au-delà, justement, de nos frontières étatiques. Vous avez aussi pour mandat d'observer ce que vont faire les autres observatoires dans le monde. Justement, à tous les cyniques qui diront que cette gouvernance mondiale, parce que c'est un peu ce qui est recherché à travers ce que vous faites, de cette gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, c'est une douce illusion, c'est un rêve impossible. Que répondez-vous à ça?
Mais là, quand vous avez parlé de l'international, du moins, parce qu'on voit apparaître des labos, des laboratoires, aussi des observatoires, on n'est pas les seuls. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une volonté dans tout cet écosystème-là de se parler. Alors, on est moins en silo qu'avant. Alors, moi, je mise sur le fait de cette conversation-là qu'on va initier pour justement repenser les façons de faire, d'échanger les bonnes pratiques. Alors, que répondre à ça? Bien, ça va être par le dialogue, la délibération avec justement des partenaires qui sont tant ici qu'à l'international pour faire ces mises en commun-là. Puis, je parlais des certifications puis des normes, ben ça va être de se mettre ensemble pour penser justement à des réglementations internationales.
Vous imaginez, on entend, il y en a qui vont dire c'est des pétitions de principe, c'est des grandes valeurs, ce qui va être déterminé ici, c'est des grandes idées. Mais comment on peut avoir un moyen de coercition pour forcer justement les entreprises privées, les États qui sont aujourd'hui à la recherche justement de la plus grande innovation, comment on va les forcer à travailler ensemble?
Bon, comment les forcer? C'est là que je trouve que le domaine de l'éthique doit être en synergie avec le droit et la réglementation. Ça prend vraiment les deux. Donc, l'éthique va nous faire réfléchir, va nous aider à construire le sens et à nous alimenter dans les acceptabilités sociales et va soulever certains risques et enjeux qui, par la suite, vont éclairer le droit. Donc, on voit, en tout cas, ma conception, c'est vraiment de travailler...
Irriguer.
C'est ça, l'éthique et le droit en synergie pour justement repenser cette régulation-là sociale pour mieux encadrer l'intelligence artificielle et le numérique.
Merci Lise Langlois. Je vous rappelle, vous êtes la nouvelle directrice de l'Observatoire international sur les impacts de l'intelligence artificielle et du numérique. Merci à vous d'avoir répondu à ce troisième panel de discussion.
Merci à vous.
Quelques instants, quatrième et dernier plateau, nouveaux invités. On va parler de la recherche responsable en intelligence artificielle. C'est l'Hebdo, émission spéciale. À tout de suite. Émission spéciale, on le rappelle, à l'occasion de cette semaine exceptionnelle à Montréal dédiée à l'intelligence artificielle responsable. Audrey, dernier tour de piste, toujours en forme ?
Toujours.
J'étais en train de lutter dans ces notes. Nous sommes ici à l'hôtel Sheraton en plein cœur du forum consacré à cet événement majeur, un forum organisé par les fonds de recherche du Québec et le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Il est à nos côtés. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous, puis félicitations pour cette initiative. Et puis, à vos côtés, elle va nous présenter donc Christine Balaguet,
oui, titulaire de la chaire Réseaux sociaux et objets connectés au sein de l'Institut Mines Télécom.
Alors, pour démarrer, Rémi Quirion, Christine Balaguet, cette discussion donc sur la recherche responsable en intelligence artificielle, on va se tourner du côté de notre journaliste, Émilie Aubry, puisque Émilie, tu as un témoignage et pas n'importe lequel pour nos invités.
Oh, pas du tout, parce qu'on sait que développer une application dans le domaine de l'intelligence artificielle doit impérialement tenir compte des impacts que celle-ci aura sur la société en fonction de nos valeurs et principes éthiques. Yoshua Bengio, chercheur spécialisé en la matière et sommité dans le domaine de l'intelligence artificielle, croit fortement que nos forces au Québec ne résident pas seulement dans l'exécution et la création des applications, mais aussi dans notre sens du jugement. Écoutons son commentaire.
On a une opportunité aussi ici au Québec, à Montréal, au Canada, de jouer un rôle positif. Non seulement on a été des leaders scientifiques, puis on fait des progrès importants pour développer l'économie avec l'intelligence artificielle, mais on a l'opportunité, grâce à qui on est, puis ce qui est fort chez nous, de jouer un rôle au niveau du leadership moral pour s'assurer que, pas juste nous, mais que l'ensemble de la planète aille dans le bon sens par rapport au développement responsable de l'intelligence artificielle.
Alors, à la lumière du témoignage de Yoshua Bengio, qu'Émilie a recueilli, Rémi Quirion, Christine Balaguet, c'est ce qui va d'ailleurs lancer notre discussion. Est-ce que vous croyez que la culture universitaire actuelle au Québec, la culture de travail dans les établissements de recherche, nous permet déjà de montrer l'exemple à d'autres pays, d'autres cultures, d'autres méthodes de recherche en matière d'intelligence artificielle? Est-ce que le Québec, finalement, montre la voie à suivre? On peut peut-être commencer par vous. Rémi Quirion.
Excusez-moi. Oui, très certainement. Yoshua Bengio a parlé de leadership moral. Donc, on a une tradition au Québec en termes de d'éthique de la recherche, de conduite responsable en recherche. Et c'est une niche pour le Québec. C'est un peu pour ça qu'on a créé l'Observatoire. Parce qu'en termes d'investissement en intelligence artificielle, plusieurs autres pays vont avoir beaucoup plus d'investissements. Mais pour nous, une préoccupation du côté éthique côté conduite responsable dans le secteur de l'intelligence artificielle, je pense qu'on est très bien positionné pour avoir un très grand leadership à l'international.
Christine Balaguer.
Alors moi, je ne travaille pas au Québec, mais en France. Oui. Et il est en train de se créer toute une communauté internationale. Et la France et l'Europe défendent des valeurs qui sont des valeurs, on l'a vu avec le RGDP, de défense des libertés individuelles, de respect de la vie privée. Et donc, dans le domaine de la recherche aussi, se développe toute une communauté pluridisciplinaire de chercheurs qui vise à faire avancer l'éthique de la recherche en intelligence artificielle pour mesurer l'impact aussi de ces recherches sur la société.
Alors, à cet égard, la déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle donne un peu le ton. Tout à l'heure, Madame Langlois nous disait à quel point c'était difficile de choisir les thèmes tant que l'enjeu et les champs possibles de réflexion sont immenses. Cette déclaration, finalement, interpelle tous les acteurs de l'intelligence artificielle pour le respect volontaire de principes responsables. À côté de l'adoption volontaire de principes, on va probablement avoir besoin d'une réglementation qui sera probablement, très certainement même nécessaire. Mais cette réglementation va aussi provenir d'arbitrages politiques qui eux-mêmes peuvent être dans une certaine mesure biaisés et ne pas vraiment faciliter l'harmonisation entre les pays. Alors, quel équilibre peut-on espérer entre l'adoption volontaire de pratiques responsables et peut-être une adoption moins coûteuse et le poids de la réglementation? De quel côté on va pencher, à votre avis?
Qui veut commencer? Rémi, Christine?
Oui, moi je pense que en fait c'est un équilibre qui va se faire et que l'intelligence artificielle s'est d'abord créée dans le domaine de la recherche et a impacté ensuite l'industrie qui a impacté de par ses produits massifs les usages et l'ensemble de la société. Donc si on commence par réfléchir sur ces questions d'éthique au niveau de la recherche, eh bien de la même manière on pourra impacter, on l'espère, l'industrie, en tout cas certains partenaires industriels qui font le choix de cette responsabilité dans l'intelligence artificielle qui peut être considérée comme un avantage concurrentiel et non pas un frein à l'innovation. Et quand on se dit qu'il y a un développement économique derrière, eh bien les politiques peuvent être aussi convaincues si d'un côté il y a un développement économique, il y a un usage des individus qui acceptent les technologies parce qu'elles sont responsables, sinon il risque d'y avoir un rejet massif de ces technologies, je crois que les politiques suivront.
Et je pense, ce que j'aime beaucoup de la déclaration de Montréal, c'est que ça a été fait avec la société civile. Ça a été fait avec monsieur, madame, tout le monde, des interactions avec le milieu académique. Donc, on a bâti ça, on a construit ça ensemble. Donc, ça a une force qui est relativement rare dans notre société, parce que là, on peut parler aux politiques en disant si le peuple veut tout ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on devrait apprendre de ce que le GIEC a fait du côté des changements climatiques. Donc, depuis plusieurs années, quelques décennies, des grandes, grandes études, et c'est évident lorsqu'on regarde...
On réunit tous les scientifiques, c'est finalement
ça. On réunit tous les scientifiques dans le domaine des changements climatiques. On produit des rapports qui sont très longs, que peu de gens vont lire. Le résumé, quelques-uns vont le lire, et c'est très convaincant. Pourquoi le politique ne l'achète pas? Donc, il y a une leçon à apprendre là pour ne pas refaire la même chose dans le secteur de l'intelligence artificielle.
Mais est-ce que la déclaration internationale sur l'intelligence artificielle, lancée donc ce mardi, on le rappelle, à Montréal, ça doit devenir la charte des chercheurs, des universitaires, finalement, les talons référence en matière d'intelligence artificielle et en matière éthique?
Pour moi, ça doit devenir la charte de la société, pas seulement des chercheurs, pas seulement des gouvernements, mais une charte globale de nos sociétés. Et bien sûr, les cultures dans différents pays vont moduler tout ça, mais ça doit être un genre de charte très globale.
Christine Balaguer.
Oui, cette déclaration, elle se fait à Montréal par, effectivement, des Canadiens, mais on partage les mêmes valeurs en France, on partage les mêmes valeurs en Europe. Et encore une fois, il y a une communauté internationale pluridisciplinaire qui est en train de se créer sur ces questions. Et donc, ça devient une vision globale. Et je fais le parallèle quand même avec le climat, puisque ça a été fait par Rémi Quirion. De mon point de vue, sur le climat, on est allé très loin, trop loin et donc il est très difficile de faire marche arrière, même si cette semaine c'est la COP24 à Katowice. Et sur les technologies, eh bien, on est à un moment en 2018
où on peut encore le faire.
On peut encore réfléchir sur le monde de demain que l'on peut construire. Et donc cette déclaration, comme aujourd'hui le forum de discussion, ce sont des et l'observatoire bien entendu, ce sont des initiatives qui sont indispensables pour penser ce monde numérique de demain et pour le penser responsable, qui est la seule issue. Sinon, on va probablement dans le mur sur les technologies, comme on est allé dans le mur sur le climat.
Audrey. Alors parlons d'un enjeu particulier, celui de la démocratie. Et je crois bien qu'il fait partie des thèmes de la déclaration. On commence à repérer des manipulations en fait extrêmement dangereuses pour la démocratie, mais aussi pour la robustesse des institutions. Pensons simplement à la manière dont les cyberattaques peuvent fragiliser les institutions. Alors la réflexion académique à ce niveau-là, sur cet aspect crucial, elle en est où pour des sociétés plus libres et plus démocratiques? Comment l'intelligence artificielle peut pencher du bon côté là?
Christine Balaguer.
Je crois que les recherches qui sont en publication aujourd'hui et qui ont été publiées ont montré les dérives. On en est là. Et que par rapport à ces dérives, on l'a vu avec Cambridge Analytica, avec les effets d'enfermement, les bulles d'enfermement, les chambres d'écho, tous ces phénomènes ont été montrés, l'impact des moteurs de recherche sur les votes des individus dans des élections, tout ça a été montré, publié. On s'aperçoit aussi aujourd'hui de discrimination dans le domaine de l'emploi, des algorithmes qui discriminent les hommes et les femmes et donc qui deviennent parfois de manière non intentionnelle illégaux. Donc tout ça est en train d'être publié, et on est en train de mener cette réflexion de justement, il faut inventer autre chose. Et donc, il commence à y avoir aussi des publications, ici à la conférence NIP cette semaine, il y a un certain nombre de communications là-dessus, sur comment on peut imaginer des technologies, des algorithmes qui soient plus transparents by design, parce que la question de ces algorithmes, c'est qu'ils sont opaques, qui évitent les questions de biais, donc comment on peut mettre des garde-fous. Les questions de discrimination et puis les questions, il ne faut pas l'oublier, de jugement de valeur. Chacune de ces technologies porte une intention qui est l'intention du codeur, l'intention de l'entreprise derrière le codeur. Et donc comment on peut développer des technologies qui soient responsables by design, c'est l'objectif.
Abbé Caillon.
Un rôle très important pour l'Observatoire, démocratie, intelligence artificielle et se rappeler que oui, les algorithmes sont importants, mais au cœur de l'algorithme, c'est un humain. Donc, vraiment, il y a des biais de ce côté-là aussi qu'on introduit sans nécessairement le vouloir. Donc, vraiment, de continuer à travailler avec l'humain et que l'Observatoire mette ça au cœur de ses activités, tout ce qui est démocratie dans le futur. Très, très important de mieux connaître, de mieux comprendre l'impact de l'intelligence artificielle et du numérique dans ce secteur-là.
Un des objectifs du nouvel Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, c'est, je cite, de consolider le lien de confiance entre la recherche et le public. On le sait, les questions sont nombreuses de la part du grand public face à l'intelligence artificielle, les peurs sont nombreuses. Comment on les rassure? Ce sera la dernière question. Comment on peut rassurer?
Je pense que c'est de faire comme ici, s'asseoir tous ensemble autour d'une même table, se connaître, échanger sur peut-être ces peurs-là, mais aussi sur les opportunités que l'intelligence artificielle peut créer. Le dialogue avec la société civile est toujours pour moi très rafraîchissant, très enrichissant. Donc c'est pour nous, chercheurs, je dirais, d'interagir davantage avec la société civile et je pense qu'on va y gagner beaucoup de part et d'autre.
Christine Balaguer.
Oui, aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, il y a deux visions souvent présentées, et souvent présentées aussi par les journalistes et les médias. C'est une vision extrême des technologies qui peut aller jusqu'au transhumanisme, ou la vision activiste, c'est-à-dire on va vers un monde qui est un monde affreux. Et il me semble que l'IA responsable, c'est le fait d'inventer un intermédiaire, une autre voie, qui est une voie qui est acceptable avec un contrat social par tout le monde, qui est cette voie de l'innovation peut apporter beaucoup de progrès dans le domaine de la santé. On est à un moment où peut-être l'intelligence artificielle peut vraiment faire bouger énormément les choses. Et en même temps, donc, si on le fait de manière responsable, eh bien, c'est un progrès pour l'humanité et non pas un retour en arrière comme on peut l'imaginer. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, parler aux individus, faire des délibérations, ce que va faire l'Observatoire à Montréal, ce que nous allons faire aussi en France au travers de la chaire Good in Tech, eh bien, parler avec les gens, travailler sur les consentements aussi des individus par rapport à, aux recherches ou par rapport aux technologies qui peuvent se développer, c'est rentrer dans un contrat de confiance et qui nous permet de penser collectivement cette société du futur. J'aime bien ce concept, j'y travaille beaucoup dessus, on est à un moment où il faut travailler sur ce qu'on appelle l'intelligence collective par rapport à ce monde.
C'est un beau terme, ça clarifie bien et je pense que ça clôt totalement avec une beauté cette belle discussion. Merci beaucoup Christine Balaguer, professeure et titulaire de la chaire en intelligence artificielle à l'Institut Mines Télécom Business School. Allez français. Et merci beaucoup Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, d'avoir répondu à ce dernier panel de discussion. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission spéciale. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au Fonds de recherche du Québec et au scientifique en chef Rémi Quirion de nous avoir accueillis ici à l'hôtel Sheraton à l'occasion de leur grand forum sur l'intelligence artificielle responsable. On se quitte sur ces quelques notes de Hubert Lenoir. C'est bien cela. Ça s'appelle, le titre c'est Grand Hôtel. Voilà, c'est ça un grand... Ton hôtel, voilà, c'est le tien. C'est notre recommandation de la semaine pour vos travaux de recherche en labo. Merci beaucoup, Émilie Aubry. Merci, Émilie Laurenceau. Merci, Audrey Azoulay. Et merci à tous nos invités et au public présent ici. Est-ce qu'ils nous entendent, le public? Ils nous entendent pas? Est-ce qu'il y a du monde dans la salle?
Ouais.
Voilà, merci à vous, au public qui a été là. Merci à la réalisation technique, à Gigi Doumbia et toute l'équipe de GTS, à la recherche Émilie Laurenceau et à la coordination plateau Eve Jasmin et Lucille Poteau. Philippe Regnoux au micro, c'est l'hebdo, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi 13 décembre. D'ici là, bonne semaine, intelligence artificielle responsable à tous.